Sans l'Ubisome, comme on dit en Alsace. Donc bonjour à tous, j'adore les Alsaciens. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va parler de natalité, chers amis, puisque elle a battu un record, encore une fois, historiquement bas, avec 678 000 naissances. Alors, ça peut paraître beaucoup quand même, hein, c'est plus d'un demi-million. Mais en réalité, c'est, vous savez, 20% de moins qu'en 2010. En 14 ans, il y a 14 ans, il y avait un enfant sur 5 de plus qui naissait, ou plutôt depuis, il y a un enfant sur 5 qui ne naît plus, 20% tout de même, en France. Donc on va rapidement. D'abord, c'est une première vidéo d'une série, pardon, un premier podcast d'une série de plusieurs. Sur la question d'avoir des enfants, de la famille, de la natalité. Donc, dans celui-là, on va voir un peu le discours autour du fait de refuser d'avoir des enfants et un peu le contexte autour de ces chiffres de la natalité. Et dans un autre épisode, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'avais fait une boîte à questions en story avant-hier, en vous disant, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur le fait d'avoir des enfants, quelles sont vos peurs, vos craintes, vos freins actuels, ou bien pourquoi vous ne voulez pas en faire, ou pourquoi certains en ont fait. Et on va y répondre, et je serai avec Grand Lucas. Donc Grand Lucas, il a un podcast également. Allez le suivre sur Instagram, ça s'appelle Grand Lucas Podcast. C'est un père de famille comme moi, même plus jeune que moi, mais qui a une maturité là-dessus et qui a de belles leçons de vie. C'est assez intéressant son podcast, je vous invite à aller le découvrir. Et il parle notamment voilà, de la famille recomposée, parce que lui c'est son cas, du fait d'être beau-père, du fait d'avoir des enfants. Il a une approche assez intéressante. Allez l'écouter, du coup je serai avec lui pour le prochain épisode où on répondra donc à toutes les objections, à toutes les remarques, les inquiétudes que vous m'avez envoyées sur Instagram. On essaiera d'y répondre et donc ça devrait être assez vivant, ça va être plutôt intéressant et on va essayer de vous rassurer, de vous donner notre expérience, pourquoi il y a toujours des raisons de faire des gosses et pourquoi c'est plus important que jamais. Puisque, comme je vous disais, la démographie française est historiquement basse. Alors, on avait atteint des records dans les années 90 aussi. On était descendu à 740 000 naissances dans les années. Voilà, c'était en 94, 95, 96, je ne sais pas exactement. En l'occurrence, ça s'est largement aggravé puisqu'on est passé sous la barre des 70 000. Et voilà. Alors, la natalité en France a explosé. Elle était morose hein, depuis le début du XXe siècle. Et elle a explosé après la Deuxième Guerre mondiale avec le CNR et Charles de Gaulle qui ont voulu faire advenir 10 millions de beaux bébés pour la France et pour participer à sa reconstruction, même si la France après la Deuxième Guerre mondiale n'était pas un pays rasé. Vous savez, on nous dit souvent, oui, vous savez, hein, sans les immigrés, on n'aurait pas reconstruit la France. Calme-toi, évidemment, ils ont pris leur part, mais à hauteur de ce qu'ils ont fait, et il faut arrêter le discours. Oui, les immigrés ont reconstruit la France, certains Algériens le prétendent, mais surtout pour dire que c'était pas tellement une reconstruction, c'était un développement économique, une industrialisation et une entrée dans la modernité industrielle de la France, les fameuses Trente Glorieuses, et donc qui se sont accompagnées de ce boom des naissances, le baby boom, qui a donné nos boomers. Et donc, on a en France donc cette augmentation très forte de la natalité et on a un effondrement. On a un effondrement dans les années 70, plusieurs raisons à cela et à partir de là, maintenant, je vais vous décliner un peu, selon moi, ce qui intervient dans la politique, dans le discours ambiant, ce qui intervient par rapport voilà, au désir d'enfant, ce qui influence, ce qui a un poids. Donc, il y a quelque chose qui a un poids et dont personne ne parle, c'est évidemment l'avortement. Donc, dans les années 70, on a une chute brutale des naissances qui peut être due au choc pétrolier, donc à la fin des Trente Glorieuses, un ralentissement de l'activité économique. Putain, excusez-moi, j'ai du mal à parler, il est super tard. Dans les années 70, on a ce ralentissement de l'économie, mais on a surtout la loi Veil et on passe de 900 000 environ naissances à 700 000 à 800 000 plutôt. Je vais vous récupérer le tableau que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc évidemment, l'avortement est lié à cette baisse de la natalité, puisqu'on a entre 130 000 et 230 000 avortements depuis cette période, et c'est sans doute le nombre d'enfants qui nous manque. Et en fait, on voit la courbe, on voit un graphique. Bon, c'est ça que enfin, je peux essayer de vous le décrire, mais donc dans ce graphique, on voit bien la bascule en quelque sorte de courbe qui se croise de la natalité, la courbe des avortements et la courbe de la natalité qui se croisent entre guillemets, même si bon, la courbe de l'avortement, oui, la courbe de l'avortement, parce qu'il y avait des avortements, mais ils étaient clandestins ou à l'étranger, et une fois que c'est légalisé. Cette courbe explose et on voit que la natalité baisse également, donc ça a forcément un lien. Donc évidemment l'avortement. Et aujourd'hui on en est à 235 000, 234 000 et quelques avortements par an. Donc c'est gigantesque et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus pour parler de la fécondité en France. Parce que voilà, contrairement au discours ambiant qui veut nous faire croire que un fœtus, un embryon n'est pas un humain. Ce qui est totalement faux scientifiquement, évidemment, puisque ce n'est pas un fœtus de chien, ce n'est pas un fœtus de je ne sais pas quoi, c'est un fœtus qui vient d'une gamète mâle humaine et d'une gamète femelle humaine. Donc ce fœtus est un fœtus humain. Et depuis la fécondation, en fait, à chaque fécondation qui ont été et chaque grossesse qui est interrompue, c'est une personne de moins qui naît. C'est implacable. Et à partir de la fécondation, si vous n'interrompez pas le processus et que la mère ne fait pas de la motocross et de la boxe thaï, cette fécondation va donner naissance à un enfant, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est le grand mensonge autour de ceux qui disent « Mais non, mais c'est pas un humain, c'est un amas de cellules. » Oui, enfin, c'est l'amas de cellules que tu as été 9 mois avant de naître. Et désolé, mais à certains égards, tu es toujours un amas de cellules. Excuse-moi, mais pour les plus gros branleurs qui font rien de leur vie, qui ont des bullshit jobs, qui vivent en vase clos, recroquevillés contre eux-mêmes et leur égoïsme, tu n'apportes rien à la société, tu n'apportes rien autour de toi, puisque tu n'es que caprice, tu n'es que consommation et autosatisfaction, tu es un amas de cellules. En mouvement, qui ingurgite des calories, qui rejette des étrons et du CO2 par la bouche et qui avale du H2O. Non, pas du H2O, de l'O2. mais tu es un amas de cellules en fait. Et tu ne sers à rien. Tu ne sers pas plus à grand-chose qu'un amas de cellules, qu'un fœtus qui lui va grandir, etc. Donc, à partir de la fécondation, un processus vital est enclenché, qu'on le veuille ou non. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce mensonge. Mais bref, ce n'est pas le sujet. L'avortement, donc, a sa place dans la baisse des naissances, forcément. La contraception également, forcément, puisque la contraception met hors disponibilité une femme de procréer, et a fortiori, par extension, un couple d'être fécond, d'avoir des enfants. Puisqu'en fait, quand il y a une contraception, qui au passage est une castration chimique, et il commence à y avoir une prise de conscience autour de ça, mais c'est très lent, parce que la contraception, comme l'avortement, est un totem du progressisme absolument indéboulonnable, et que c'est, si vous voulez, c'est la trinité libération sexuelle, avortement, contraception, c'est la nouvelle trinité progressiste. Et vous pouvez pas y toucher. Heureusement, il y a une prise de conscience sur la contraception chimique, donc la pilule, mais c'est lent. Et vu que c'est un totem, c'est très lent et les gens en parlent difficilement, alors que écologiquement, c'est un désastre, et biologiquement, pour les femmes, et psychologiquement, c'est très mauvais, puisqu'il y a des études qui ont déjà montré que les femmes qui ont pris la pilule contraceptive développent plus facilement des dépressions. Alors, est-ce que c'est lié directement aux molécules chimiques, parce que c'est des bombardements d'hormones qui sont ingurgités, ou bien est-ce que c'est parce que quand vous avez coupé une femme pendant 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ses cycles naturels, est-ce que ça n'a pas une conséquence sur son affect, sur sa psychologie? Je pense que oui, évidemment. Là-dessus, il n'y a pas, je ne sais pas si l'étude va aussi loin, Mais ça ne m'étonnerait pas que forcément, quand vous bousculez, interrompez, étouffez la biologie d'une femme, donc ses cycles menstruels, qui sont faits d'hormones, etc., donc qui sont directement connectés entre le cerveau et son appareil reproducteur, quand vous interrompez ça, quand vous annulez ça, évidemment que ça a des conséquences psychologiques. Donc voilà. Donc en plus d'être une catastrophe psychologique pour les femmes, hormonale, écologique, la contraception rend indisponible le couple à la fécondité, à avoir un enfant. Et quand un couple finit par, à partir de 30 ans, de se poser la question « Tiens, est-ce qu'on ferait pas un gosse parce que là, notre vie a pas trop de sens, on tourne en rond dans notre égoïsme et notre narcissisme ?» Eh bien, en fait, là, il faut commencer à prendre le choix d'arrêter la pilule. Ah oui, mais machin, mais je vais tomber enceinte tout le temps. Et surtout, il n'y a aucune information par rapport à ça, puisque ce qu'on apprend à l'école est très vague et c'est très porté sur, une binarité qui... Enfin, sur une fausse binarité, une fausse dichotomie qui serait celle t'as pas de contraceptif, t'es tout le temps enceinte, tu prends contraceptif... tu es une femme libérée et tu fais ce que tu veux de ta vie, ce qui est évidemment faux. Il y a plein de méthodes naturelles. Moi, je suis marié avec ma femme depuis 4 ans. On n'a jamais pris de contraceptif. Et pourtant, on a un enfant et un deuxième qui arrive. Voilà, petite annonce, félicitations. Voilà, je vous l'annonce, il y a un deuxième qui arrive. Mais voilà, on n'est pas à 4 gosses. Il n'y a pas eu de retour de couche. Parce que le corps de la femme est très bien fait. Alors évidemment, il y a des femmes, c'est plus compliqué, parce que les règles ne sont pas forcément aussi régulières, aussi fiables, etc. Mais en fait, déjà dans le temps, les femmes n'avaient pas toutes 15 gamins. Et surtout, on a des techniques extrêmement poussées maintenant, entre la symptothermie, les méthodes Billings, donc, qui sont des méthodes qui vont étudier la glaire cervicale. Allez demander à une féministe ce qu'elle sait, la glaire cervicale. Et en fait, elle va découvrir qu'elle a un liquide en elle et qu'elle rejette tout au long de ses cycles, qui est un indicateur de sa fertilité. Donc la glaire cervicale, c'est une glaire qui, au max de la fertilité, va être nourrissante pour les spermatozoïdes, va emmener les spermatozoïdes jusqu'à le col de l'utérus au moment de la nidation, ou je sais pas quoi, j'avoue, je suis pas expert, c'est ma femme maîtrise mieux la chose forcément, mais ce que je veux dire, c'est que la glaire cervicale, donc soit elle est nourrissante pour les spermatozoïdes, soit elle va agir comme un filet et comme un genre d'immobilisant contre les spermatozoïdes et les empêcher de passer. Alors ça n'empêche pas forcément, c'est pas forcément extrêmement fiable, et c'est pas non plus contraceptif au sens où c'est sûr que ça bloque, etc. Mais la glaire cervicale, en plus des cycles de la femme, sont des indicateurs très précis pour réguler les naissances. Donc voilà. Et surtout, c'est respectueux du corps de la femme, c'est respectueux de ses cycles, et respectueux de notre biologie, de notre nature. Et donc, c'est quoi? C'est écologique. Et ça, où sont les écologistes? Où sont-ils? Ah oui, pardon. Ils sont plutôt sur l'avortement. Ils préfèrent entasser 230 000 fœtus avortés par an. Donc, vous m'expliquerez ce qu'il y a d'écologistes là-dedans. Imaginez-vous, un tas de 230 fœtus avortés. Ils verraient des fœtus... En fait, il faudrait d'abord leur faire un tas de fœtus de vaches. Un tas comme ça. Ils seraient horrifiés, ils seraient là. Oh mon Dieu, les pauvres petits veaux. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et après, on leur mettra des fœtus humains. Et là, ils verront. Mais non, mais c'est un droit. C'est un droit inaliénable. Mettons-le dans la Constitution. Bon, bref, je me suis écarté du sujet. Mais tout ça pour dire que la contraception, donc en plus d'avoir tous ses torts, empêche, ne met pas le couple dans... des dispositions d'ouverture à un enfant. Et donc, ça ralentit tout. Alors évidemment, il y a plein de gens qui prennent des contraceptifs, et même qui avortent, qui auront des enfants. Il y en a plein, évidemment. Mais ça ralentit beaucoup les choses. Parce que c'est confortable, ça nous installe dans une routine, je prends ma petite pilule, etc., tous les jours, ça nous installe dans une routine, on se projette sans enfant, du coup, puisque on n'est pas, notre corps ne fait pas d'enfant, et il ne faut pas croire que c'est notre intelligence qui gouverne tout. C'est nos actes qui nous font. Il y a une phrase qui dit, je ne sais plus de qui, l'intelligence, qu'elle peu de choses, c'est peu de choses à la surface de nous-mêmes. Et en fait, ce sont vos actes qui déterminent aussi votre vie. Et quand vos actes, c'est d'être fermé à la vie, de faire ce choix quotidien, parce que c'est un choix quotidien d'avaler cette pilule, bah forcément, vous n'êtes pas dans une disposition d'ouverture à la vie et de choix vers la vie. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, évidemment. C'est pas ça que je veux dire, mais j'étudie la chose de façon objective. Quand chaque jour, il y a ce geste délibéré de prendre une pilule, mais qui est en fait un mécanisme social également qu'on a adopté, voilà, une femme libre est une femme qui prend la pilule ou qui a un stérilet, et bien forcément, vous n'êtes pas disposé mentalement et volontairement à faire des enfants. Et pareil, quand vous avez un stérilet, vous êtes fermé à la vie. Bref, évidemment, toutes ces personnes qui prennent des stérilets, évidemment, ont aussi des enfants, etc. Mais voilà, comme je disais, ça ralentit beaucoup les choses. Et prenons du recul. Imaginons, on est des aliens qui arrivent sur Terre et qui découvrent les espèces vivantes sur cette Terre. Des lynx, des lapins, des tigres, des éléphants, des marmottes, des carpes, des chevennes, des gardons. Tous copulent, et l'homme aussi. L'homme copule, l'homme est un animal social, il a bâti des civilisations, mais c'est un animal. Quand il fait crac-crac, il y a un bébé qui naît. Il mange, il se nourrit, il fait des crottes, etc. C'est un animal social. Mais cet animal a la particularité de s'être lui-même rendu infertile. C'est un animal qui a organisé lui-même l'interruption, qui empêche lui-même la génération, le renouvellement de ses générations. C'est la seule espèce du monde animal qui bloque volontairement sa reproduction. Donc évidemment, dans le discours progressiste, voilà, l'homme n'est qu'esprit, l'homme est détaché de tout ça, l'homme n'est que volonté, l'homme n'est plus un animal finalement, l'homme est esprit, est idée. Et il oublie qu'elle est un animal et que cet animal doit reproduire son espèce, que son habitat naturel est menacé par sa propre activité, ou bien que son espèce est menacée aussi par des espèces invasives, des espèces colonisatrices, qu'en effet, il a cette particularité d'empêcher lui-même sa reproduction. C'est amusant quand même. Ou de tuer lui-même sa procréation. Comment on appelle ça, sa progéniture. Dans le sein de sa mère. Très intéressant. Donc on a ces raisons qui sont d'ordre très sociétal, donc avortement, contraception, et aussi évidemment il y a les choix de vie. Les choix de vie ont évidemment énormément évolué et les buts dans la vie ont énormément évolué. Alors on a eu l'individualisme, donc l'homme peut s'accomplir par lui-même, choisir son existence, il n'est plus dans une corporation, c'est pas le dernier fils qui va rester avec ses parents et qui se mariera jamais. Et le deuxième ou le troisième qui va devenir curé, le premier il est militaire ou je sais pas quoi, ou bien on va faire le métier qu'a fait son père, on va entretenir la terre, le domaine, l'héritage. Voilà, l'individualisme, c'est l'homme qui choisit ses propres actions, etc. Après on a l'égoïsme, l'homme qui choisit ses propres intérêts, qui fait ses choix selon ses intérêts, qui préfère passer avant la communauté. Et aujourd'hui on a le narcissisme. Donc vous connaissez sans doute Christopher Lasch, auteur très intéressant sur le narcissisme, et on est dans la société du narcissisme. Et cette société du narcissisme, donc on fait moins d'enfants déjà depuis bien longtemps, hein, depuis le début du XXe siècle, et là on est rentré dans l'esthétisation du choix, du refus d'avoir des enfants pour son propre plaisir, pour son propre égoïsme. Et donc on a l'émergence du no-kid, donc des personnes qui revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfant. Parce que l'individu et l'ego étant au paroxysme de la valorisation sociale, être indépendant, faire ce qu'on veut, l'enfant et faire un enfant est évidemment rejeté. Et limite, il y a du mépris pour ceux qui vont avoir des enfants, et encore plus pour avoir beaucoup d'enfants. Je peux vous raconter une anecdote, et d'autant plus que le journaliste qui avait sorti cette phrase est mort, donc je peux autant plus en parler. Mais j'étais en stage au Progrès de Bourg-en-Bresse, et donc j'étais avec mes collègues donc, du Progrès, donc bon, sociologiquement, je vous passe, évidemment, on est sur du boomer de gauche, d'extrême gauche, etc. Et il y avait ce journaliste, Marc Dazy, c'est ça, du Progrès de Bourg-en-Bresse, et il parlait de la femme d'un élu local donc, qui s'appelait la Verpillière, et sa femme avait 8 gosses. Et il y avait des blagues qui fusaient, mais pas cool, quoi. Pas cool. Nous, chez les Cato, on fait plein de blagues sur le fait que nos mères ont beaucoup d'enfants. Et là, il y avait cette espèce de mépris à dire « Ah non, mais elle, c'est la pondeuse. Elle, c'est la pondeuse, la poule pondeuse, quoi. » Et il y avait cette espèce de mépris pour cette femme qui avait eu 8 enfants. Alors que c'est un... Alors, on appelle ça jamais comme ça, mais vous savez, les gens qui veulent faire des accomplissements dans leur vie, des accomplishments, mais avoir 8 enfants en bonne santé, qui vont bien, qui sont insérés dans la société, je ne vous parle pas d'une famille de cassos, hein. Avoir 8 enfants, les avoir éduqués, mais les femmes ont des médailles pour ça, encore aujourd'hui en France, et elles en avaient dans le temps, les médailles de la famille, parce que c'est pas le sujet, mais c'est incroyable, c'est un don de soi fantastique. Évidemment, on dénigre ça, on dénigre la maternité, donc avoir des gosses n'est plus mis en valeur. Et donc, pour en revenir à cette société du narcissisme, donc on a des gens, donc on a des influenceuses qui ont 40 ans et qui écrivent des livres, accrochez-vous, sur le fait que j'ai pas d'enfant mais j'ai un chien. Et je suis content comme ça. Pas d'enfant. Et c'est des gens qui font le tour des médias. Donc c'est des gens qui vous expliquent « Non mais en fait, j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. » Voilà, Hélène Gâteau. Et ces gens se vantent de ça, et donc on a des vidéos où les gens disent « Non mais en fait, vous me reprochez quoi là ? En fait, de faire ce que je veux, de ma vie, et de pas avoir d'enfant ? De partir au bout du monde quand je veux ? Vous me reprochez quoi ? D'être libre ? » On a cette espèce de revendication de l'égoïsme le plus terrible, et alors que en fait dans 35 ans ce sont des personnes qui vont être tellement seules parce que leurs amis seront déjà morts ou grabataires dans un EHPAD ailleurs, dans une autre ville, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura plus de parents, il n'y aura plus de frères et sœurs parce qu'ils seront peut-être aussi morts et de vieillesse, donc cette femme n'aura pas de descendance et va se retrouver dans quelques années dans un EHPAD sans visite, sans personne au courant de son existence, à part la personne qui vient changer sa couche. Ce sont des personnes qui seront seules, mais au sens le plus strict, parce que, comme je vous dis, quand vous avez 85 ans, la moitié de vos amis sont morts, parce qu'ils vieillissent, vous n'avez pas d'enfants du coup, vos frères et sœurs et vos cousins, bah, ils ont à peu près le même âge que vous, donc vous avez peut-être un neveu éloigné du coup, un neveu qui viendra peut-être vous voir. Mais bon, il aura, quand vous avez 80 ans, il a lui aussi 65 ans. Vous n'aurez pas la joie d'avoir cette vie, d'avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, de voir la vie en eux, de voir la vie être transmise, vous qui quittez la vie et eux qui la découvrent. Ces gens seront seuls. Ils vont souffrir. Mais voyez la misère des gens qui sont abandonnés dans les EHPAD. Évidemment, il y a aussi des gens qui ont eu des enfants qui ont été abandonnés par leurs propres enfants dans les EHPAD, mais... Rien ne vous empêche de ne pas les éduquer comme des merdes. Mais ces gens vont tellement souffrir, vont tellement avoir mal, et ils ne se rendent pas compte. Et en fait, c'est tellement ridicule de ne pas réussir, de ne pas être assez mature pour se projeter plus tard. Et moi, je suis le premier à encourager les gens à parfois prendre des choix égoïstes, et s'ils doivent vivre une expérience avant d'avoir une vie de famille, etc., mais qu'ils le fassent. Mais qui, donc déjà qu'ils n'attendent pas 25 ans pour avoir des expériences, et qu'ils soient pas, qu'ils arrêtent cette espèce de... Ouais, qu'ils aillent faire leurs expériences à 16, 17, 18 ans, et pas attendre qu'on en ait 25 pour les faire, ou 30, parce que la vie va très vite. Donc ces gens vont tellement souffrir, j'ai de la peine pour eux, parce que en fait, quand ils vont être dans des EHPAD, bah, en fait, moi je serai avec tous mes gosses autour de moi, donc je serai super fier, quoi qu'il arrive. Et je ferai en sorte que de les avoir éduqués pour qu'ils viennent me voir un minimum. Et il n'y a pas de raison. Moi, je suis allé visiter mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Et je ferai tout pour que mes parents, je les ai sous mon toit ou même mes beaux-parents ou quoi. Parce que c'est de tout ce que j'ai reçu de mes parents ou même de mes beaux-parents, je pourrais jamais leur rendre, mais je pourrais leur rendre d'une façon de les accompagner jusqu'au bout, d'être là jusqu'au bout. Et en fait, c'est le cycle de la vie. Et en fait, ces gens sont tellement méprisables parce qu'en fait, ils oublient, ils nient le fait qu'ils ont tout reçu de leurs parents. Ils ont reçu la vie. Leurs parents leur ont tout donné. Et qu'en fait, s'ils sont là, c'est parce que ils sont issus d'une chaîne immémorielle. Parce qu'en fait, s'il y a la vie, c'est que la vie a commencé un jour. Donc, il y a des lignées qui s'arrêtent. Par exemple, voilà, imaginons, moi, mon père, voilà, imaginons, mon père a eu deux enfants. Ou trois enfants, il y en a un qui est mort, un qui a pas de gosse, et un qui est, bon, qui est prêtre. La lignée s'arrête. Et donc, il n'y aura pas d'enfant derrière. Mais si nous, si ces gens, donc si cette Hélène Gâteau est sur Terre, si elle existe, c'est parce que elle a eu un père, une mère, qui ont eu des parents, leurs parents ont eu des parents, etc. Des parents qui ont eu des pères, qui ont eu des pères, qui ont eu un père, qui ont eu un père, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Et vous remontez jusqu'à... Bah, imaginez jusqu'où vous remontez. Quand vous êtes sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu cette transmission de la chaîne de la vie. Mais c'est fou de se dire ça. C'est tellement incroyable. Et en fait, ce qui fait que, et on va y revenir, c'est que ce qui fait que notre existence n'est pas contingente. Elle n'est pas là par le fait du hasard. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Il n'y a pas cette possibilité qu'une. En fait, attends, je vais prendre la définition. La contingence, c'est l'éventualité, la probabilité d'une chose exister ou ne pas exister. Possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas, ou qu'un être existe ou n'existe pas. Vous existez, vous n'êtes pas contingent. Et en fait, toute cette chaîne de transmission, vous pouvez remonter à un homme préhistorique. Mais est-ce que c'est pas de la folie? Et donc, pour revenir aux parents, vos parents vous ont donné la vie, votre mère a souffert la douleur de l'accouchement pour vous mettre au monde. Vos parents se sont levés la nuit. Vos parents ont travaillé pour pouvoir vous permettre de vous habiller, de vous vêtir, de vous nourrir, de vous donner une éducation. Et vous ne vous posez pas la question de dire, mais c'est normal de transmettre la vie. C'est normal, je l'ai reçue, je la donne. C'est, ils vont faire des grandes phrases sur le cycle de la vie. Ils vont être là, oh non, mais les saisons, mais tu te rends compte? Mon arbre, là, mon. Tu te rends compte, mon comment ça s'appelle? Mon orchidée. Chaque année, elle refleurit. Oh, c'est le cycle des saisons, quoi. Espèce d'énorme merde. C'est le cycle de la vie dont tu es un des maillons et tu es en train de briser la chaîne. Pour les gens dont la vie n'a pas été un enfer, n'a pas été cascadé, n'a pas été cabossé, si vous avez un conjoint qui vous aime, il n'y a pas de raison. Et je peux vous dire, cette Hélène Gâteau, il y a beaucoup d'hommes qui voudraient la sauter en fait, donc il n'y a pas d'excuse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui la sautent. C'est peut-être pour ça qu'elle veut pas de gosse, parce que elle aime ça, forcément. Bon, libre à elle de se trouver un mari qui la satisfera. Et d'ailleurs, des études qui montrent que les gens sont plus épanouis sexuellement avec des partenaires au long cours. Et c'est vrai que de toute façon, la consommer les relations affectives et sexuelles rend malheureux. Cette consommation des gens changée régulièrement, je vous parle pas des. Bon, bah. Bref. Si votre vie n'a pas été un enfer et que vous n'êtes pas fait pour ça, je vois. En fait, il faut vous poser la question, il faut transmettre ce maillon. Alors évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour, les gens qui sont religieux, ils n'en auront pas, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de gens qui se trouvent des excuses par égoïsme et pire par narcissisme, comme cette personne qui esthétise son refus d'avoir des enfants et qui le jette à la tête des gens avec cette. Je crois que c'est le virtue signaling, c'est montrer qu'on a de la valeur et que. On est contre la société, qu'on n'a pas d'enfants. Et c'est par exemple des Salomé Sacquet, entre autres, parce que je vais vous lire ses publications, c'est hilarant, ou d'autres personnes qui disent qu'il y a une injonction à faire des enfants. Vous êtes au courant qu'on ait un record de baisse de natalité? Elle est où l'injonction? dans les années 60, quand le général de Gaulle il dit qu'il faut 10 millions de gosses et que l'État arrose et que tout le monde fait des gamins, et qu'il faut des gamins, oui, là on peut parler d'injonction. Mais parfois l'injonction elle est nécessaire en fait. Quand il faut rebâtir un pays, rebâtir une démographie plutôt. Ah là là, putain. Et donc pour en revenir. Donc voilà. Donc on en était assez au mode de vie d'aujourd'hui et à ce narcissisme qui fait que notre vie tourne autour de nous-mêmes, autour de la satisfaction de nos pulsions, de nos besoins, de nos envies. Et en fait, de cette petite bulle, parce qu'en fait, c'est tellement risible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a cette illusion du bonheur, de se maintenir dans ces petits plaisirs, dans ces bonheurs artificiels et passagers, qui sont comme ils appellent, cette liberté de faire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas d'enfant. Comme si avoir un enfant, en fait, vous mettait en prison, c'est totalement délirant. C'est dommage, ils devraient un peu plus observer autour d'eux. On a cette petite bulle, c'est une petite bulle, et en fait le monde réel est juste derrière la paroi de cette bulle, et le bonheur décuplé d'avoir des enfants les attend juste derrière. Et cet investissement dans l'avenir, cette création d'une famille, ce sens que la famille peut donner à votre vie, est juste derrière cette petite bulle d'égoïsme de merde que ces gens ont. Et ils sont là dans leur petit monde recroquevillé contre juste eux. Eux, c'est le jusqu'au boutisme du droit de l'homme, de l'individualisme, c'est je suis moi-même mon cercle concentrique, je suis moi-même mon petit dieu, et je suis en adoration avec moi-même. Vous dépassez votre petite bulle, vous crevez votre petite bulle dans laquelle vous êtes, et là vous imaginez avec un enfant devant vous, une femme qui vous aime, qui vous admire, ou un mari qui vous admire, qui vous aime, cet enfant qui vous regarde de façon totalement passionnée parce que vous êtes son père et sa mère, vous êtes ses géniteurs, vous êtes son tout depuis qu'il est né, et il vous regarde et il est tout pour vous, mais ces gens ne s'imaginent même pas le bonheur que c'est. Ils ne voient que ils sont dans un matérialisme tellement triste, tellement abject, qui les pousse à ne voir que leur plaisir et l'accomplissement de plaisirs très matériels. J'ai perdu le fil, mais c'est tellement dommage qu'ils sont à deux doigts de découvrir un bonheur encore plus grand. Parce que si ces gens, ils aiment aller faire, faire leurs petites activités, leur footing, leur petit voyage, mais ce sera possible avec votre gosse, et en plus, ce sera possible avec des personnes que vous aimerez le plus au monde. Parce que, évidemment, il y a des exceptions, il y a des familles qui explosent, des familles qui divorcent, il y a des meurtres, il y a des Dupont-Ligonnès, mais 99% des familles, c'est de l'amour. C'est de l'amour, de l'amour brut, et un amour indéfectible. Quand il y a une famille qui est unie, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Plus que les amis, plus qu'autre chose. Évidemment, il y a des disputes parfois dans les familles, il y a des grosses divisions. La famille aussi a un lieu de souffrance énorme. Mais quand ça roule, quand ça tourne, c'est incroyable. Et ces gens sont tellement pas loin de s'ouvrir et de découvrir quelque chose d'incroyable. Cette joie... Moi, pour l'instant, j'ai qu'un gosse, avec ma femme et avec mon fils. Il y a des moments de joie, mais qui sont incroyables, des rires, des scènes, mais tellement drôles, pour un rien, en fait. Pour un rien, en plus. En fait, c'est que c'est facile, parce que ces célibataires endurcis qui ont choisi cette vie de solitude, parce qu'ils valent mieux que ça. Mais pour qu'ils soient heureux, mais il leur faut tellement de choses, les pauvres. Alors oui, bon, vous allez avoir les ravis de la crèche qui sont heureux parce qu'ils ont fait une randonnée. Bon, force à eux, c'est génial. Mais vous en avez certains, mais pour qu'ils soient heureux, il leur faut... il faut qu'ils aient bien dormi, qu'ils aient pas été réveillés trop tôt, que le café soit à la bonne température, il faut qu'il fasse pas trop gris dehors, il faut toujours de petits critères de merde. Parce que c'est des gens qui sont hyper aigris, parce qu'en fait, ils ont une vie... Les célibataires endurcis, ils sont insupportables. Comme ça, ils sont sympas et tout, c'est vos potes, mais quand vous rentrez quand vous creusez un peu, vous apercevez que leur vie est faite de petites obsessions, parce qu'elle est tellement vide qu'ils doivent construire leur... ils doivent cadrer leur vie. Et du coup, en fait, s'ils n'ont pas leur oreiller à mémoire de forme, ils n'arrivent pas à dormir. S'ils sont pas sur un matelas en latex, ils arrivent à dormir, ils font une insomnie. S'ils ont pas... bref. Alors que la famille permet ramène une certaine rusticité à ça nous sort de nous-mêmes, de notre confort. Ça nous connecte un peu, ça nous reconnecte à notre corps, porter notre enfance, lever la nuit, etc. Voilà, on va passer à une partie suivante parce que je suis allé dans tous les sens. Donc voilà, très bonne transition. Donc les modes de vie. J'ai vraiment critiqué. J'ai essayé de pas être ordurier et insultant avec ces gens. Mais voilà. Donc il y a ceux qui refusent catégoriquement d'avoir des enfants. Alors, parenthèse avant de passer à la suite, les no-kids climatiques. Bon, ceux-là, on va les exploser avant de passer à la partie des questions de fertilité et d'âge. Parce que les gens font des enfants de plus en plus tard et du coup, leur fertilité baisse. Et du coup, ça fait baisser le taux de fécondité en France. Je vais exploser les gens qui veulent pas de gosses pour des raisons climatiques. Bande de tocards. Alors, je vais me mettre de votre point de vue. Donc, la planète va mal, il faut pas faire d'enfants... parce que les enfants, ça va être des humains qui vont consommer. Alors déjà, pourquoi? Pourquoi, en fait, vous n'éduqueriez pas des enfants qui vivraient dans des ZAD ou qui vivraient de façon hyper décroissante, on va dire. Je peux vous dire qu'il y a des endroits en France qui ne sont pas très habités. Hein. Donc, si vous installez là-bas avec 5 gosses, vous n'allez pas renverser l'écosystème du tout. D'ailleurs, c'est ce que les gens faisaient dans le temps. Donc vous allez aller repeupler un village, comme on faisait dans le temps, et vivez de façon, comment on appelle ça, résiliente et frugale, vous n'allez pas créer de pollution. Donc en fait, les militants écolos, c'est bizarre, pourquoi vous voulez pas de gosses? Vous avez des choses à cacher peut-être? Parce que alors, si je choisissais ce mode de vie, et c'est un peu, et j'aime bien la frugalité et cette espèce de vie un peu plus ascétique, on va dire. Désolé, mais moi, mes gosses, ils n'auront pas l'empreinte carbone d'un enfant américain ou d'un. On va pas prendre l'avion 2 fois par an pour aller en vacances. Ils n'auront pas un smartphone à 14 ans. En terres rares, en cobalt, en termes de production et d'importation de transport, ils vont consommer local parce qu'on va soutenir nos paysans. Ils vont consommer made in France parce qu'on soutient notre production. Ils vont pas changer, ils vont pas avoir des vêtements de marque, mais ils vont mettre les vêtements de leurs grands frères. Ils vont se les transmettre. On va pas forcément acheter toujours des quantités, de fringues, etc. On aura une vie résiliente. Donc moi, je suis pas en plus spécialement écolo dans le sens où j'adhère, etc. Mais je ne le vis pas encore comme ça. Je prends pas mal l'avion, etc. J'ai du matériel. Bah, c'est mon métier, donc le matériel informatique, il se renouvelle, etc. Mais bref, si vous êtes un écolo, prenez vos gosses et allez vivre la petite maison dans la prairie. Vous aurez un impact sur l'environnement qui va être nul et qui sera même positif. Donc en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce refus des écolos de ne pas vouloir d'enfants? Il se cache exactement le même narcissisme que les autres. Ce même narcissisme. Donc, pourquoi je parle de narcissisme pour décrire ceux qui ne veulent pas d'enfants? Parce que l'enfant vous fait sortir de vous-même et vous oblige à ne pas être l'horizon indépassable de votre existence. Parce qu'en fait, ces gens sont aussi souvent... Alors, vous allez me dire, ils ont des amis et des relations amoureuses, ils sont en couple, etc. Oui, bon, bien souvent, ils ont aussi des relations amoureuses narcissiques, où on aime l'autre pour ce qu'il nous renvoie. Et notamment dans les milieux militants, souvent on tombe amoureux parce que l'autre est le militant qu'on idolâtre, ou ah tiens, la femme militante, c'est génial, etc. On fait un couple militant. Donc on se marie entre... C'est aussi ce qui explique beaucoup de mariages intra-catégoriels, intra-classe, etc. Parce qu'on a chez l'autre quelque chose qu'on idéalise. C'est pas forcément mauvais en soi. Mais quand c'est en plus des gens qui veulent pas faire d'enfants sous prétexte d'écologie et qu'en fait finalement c'est juste qu'ils sont dans leur narcissisme absolu, ils se trouvent des excuses à leur égoïsme. Parce que pourquoi ne pas faire plein d'enfants pour renverser le système capitaliste et productiviste? Parce que moi, si je peux me mettre dans toutes les configurations militantes, faire des gosses est utile. Si vous êtes des anticapitalistes, bah, faisons des enfants pour faire une classe ouvrière super puissante. avec des enfants qui seront des tchads ouvriers, des tchads prolétaires, ou dans une, dans, comme je disais, dans un point de vue écologiste, faisons des enfants qui seront des décroissants et des militants de, d'Extinction Rebellion qui saboteront des SUV. Donc en fait, ces gens sont des hypocrites. Et quel est le pire? Quel est le pire chez ces gens? Parce que alors, vous allez avoir les militants décroissants qui veulent pas d'enfants. À la rigueur, c'est peut-être les plus cohérents. Mais après, vous allez avoir ceux qui sont pas spécialement décroissants, qui se disent écolos, mais qui refusent donc de donner la vie à des gens qui seraient des consommateurs, alors que même vont continuer ce mode de vie. Parce qu'en fait, tous ces fils de pute qui se présentent et qui sont là, non, je fais pas d'enfants pour sauver la planète, c'est marrant, ils ont des iPhone 13. C'est marrant, ils vont continuer à aller en week-end à Milano en prenant l'avion. Parce que le train, c'est quand même un peu long. C'est marrant, ça va être les mêmes qui vont aller faire du ski avec des remontées mécaniques et qui vont pas aller mettre les pots de phoque. C'est marrant, c'est les mêmes qui vont aller en festival où ils vont manger dans des boire des boissons de merde ultra industrielles, ultra transformées dans des gobelets en plastique et qui vont consommer de la drogue importée d'Amérique du Sud. C'est marrant, ces gens refusent à d'autres générations d'exister parce qu'ils auraient des modes de vie destructeurs de l'écosystème, mais par contre eux se l'autorisent. Ces enculés, vous vous rendez compte ou pas de cette hypocrisie, de cette comment dire, ils refusent de donner la vie à des gens qui consommeraient trop. Mais suicidez-vous, n'empêchez pas aux autres de vivre la vie que vous allez continuer de mener. Je sais pas si je suis clair, mais ça me paraît fou que ces gens continuent de vivre alors qu'ils ne veulent pas que d'autres êtres humains vivent parce qu'ils risqueraient de consommer. Mais eux vont continuer de consommer bien tranquillement. Donc en fait, ils vont donc toujours ce narcissisme. Donc ils vont continuer à vivre leur petite vie avec leur petit privilège de consommateur jusqu'à la fin de leur vie de merde. Ils vont continuer à consommer. Donc c'est j'arrive pas à trouver un terme pour pas parjure, hypocrite, ouais, la dissonance cognitive absolue, la trahison. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc vous n'existez pas parce que vous allez consommer, mais moi je vais continuer à consommer. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Donc ces gens, les no-kids n'ont aucune espèce de crédit. Leur discours est totalement pipeau. Derrière, il y a juste une façon de réaffirmer leur discours féministe. En fait, ça permet de parachever leur discours féministe et individualiste, dans le sens où le natalisme, désolé, mais c'est l'extrême droite. Parce que je vais vous lire des publications. Littéralement, ce qui a été reproché à Macron, c'est d'être d'extrême droite, en rappelant que la démographie, c'est un peu important pour un pays. Parce qu'évidemment, ils sont totalement déconnectés de la réalité. ces énormes couillons, tellement leur culture politique est abominablement ridicule, qu'ils ne se rendent pas compte que, en fait, quel que soit le régime, quelle que soit l'idéologie, un peuple, une population, mais aussi mélangée que vous voulez, aussi créolisée que vous la voulez, son dynamisme ne dépend que de sa santé démographique. C'est la population, c'est l'homme qui s'est constitué en peuple, en civilisation, en nation, en classe, si vous préférez, qui est acteur de l'histoire et acteur des choses. La lutte des classes, vous ne pouvez pas la faire si la classe prolétaire diminue de plus en plus. Vous ne pouvez pas faire la révolution avec des prolétaires qui ont 60 piges. Il faut faire des ouvriers un peu dynamiques. Ils sont tellement cons, putain, ils sont tellement trisomiques, je vous jure, c'est infernal. C'est infernal. Donc voilà. Le discours no kid, c'est juste du féminisme et de l'individualisme qui veut se trouver un faux semblant par l'écologisme. C'est une connerie. Vous voulez sauver la planète, faites des gosses. Parce que surtout, en fait, c'est marrant cette contradiction, c'est que on veut sauver la planète pour les générations à venir. Ouais, mais du coup, il n'y aura pas de génération à venir, en fait. Tu vas laisser la planète à qui? À qui? C'est insensé. Bon, et surtout, c'est totalement ridicule parce que tous les autres peuples sur Terre ont une démographie. Enfin, par exemple, les Chinois relancent leur démographie parce que leur politique de l'enfant unique les a amenés à un vieillissement de leur population absolument terrifiant. En Afrique, il y a un dynamisme démographique énorme. Et en fait, en plus, ils vont léguer la population à des gens qui n'ont pas leur conscience écologique. Donc, ils se tirent une balle dans le pied totale. Donc voilà, pour vos amis écolos, sachez que ce sont juste des narcissiques qui se trouvent des excuses. Hein. Rien de plus. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Parce qu'eux, ils vont continuer à consommer, mais par contre, les générations futures, non, c'est mort, vous n'allez pas exister. Laissez-moi consommer autant que je veux. En fait, c'est ça. Je fais genre, je suis écolo, mais je détruis la planète. Comme ça, j'ai pas besoin de vous la léguer. En fait, c'est ça. Moi, je fais pas d'enfants, comme ça, j'ai pas besoin de léguer une planète propre. Je reprends leurs éléments de langage, vous m'excuserez. L'écologie qui parle de planète, pour moi, c'est bidon, mais bref. En fait, j'ai pas besoin de léguer ma planète, vu que je n'ai personne à qui léguer. C'est un peu ça, en fait, mentalement, ce qui se passe dans l'esprit. C'est exactement ça. Parce que demain, en fait, après moi, le déluge, c'est exactement ça. Ils sont là. Non, non, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause des boomers, ils ont détruit la planète. Mais en fait, c'est après moi, le déluge. Pas de génération pour venir reprendre la relève du combat écologiste. Bon, ça fait un peu trop longtemps que je parle d'eux. Voilà. Et après, il y a un autre passage très important. C'est, donc, après les déclarations d'Emmanuel Macron, on a eu cette hypocrisie des féministes qui étaient là. Macron en veut à nos utérus, il veut faire que nos hommes, les femmes ne sont pas des mères, les femmes sont d'abord des femmes. L'État n'a pas à se mêler de nos utérus. Ok, on met pas l'avortement dans la Constitution du coup. C'est ça, hein, si on s'occupe pas de votre utérus, on rembourse pas l'avortement, on rembourse pas la contraception, puisque l'État n'a rien à voir avec votre corps. Sale connasse qu'elles sont, putain, c'est incroyable d'être aussi incohérent, quoi. Mais bon, c'est notre grand défaut chez les gens cohérents, c'est que en fait, en face, on a des gens qui ne s'encombrent pas de cohérence. Et donc, elles reprochent à Macron ou à d'autres de faire des politiques natalistes parce que l'État n'aurait pas à se mêler de leur utérus, mais par contre, rembourser les capotes. Parce que Macron a littéralement annoncé qu'il rembourserait les préservatifs dans les pharmacies. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas l'État qui se mêle de ce qu'on a dans le calbar. Bref. Donc, il y a la baisse de la fécondité qui est liée également à la baisse de la fertilité. Alors là, il y a plein de questions. Les pesticides, les perturbateurs endocriniens. La fertilité a beaucoup baissé dans la population française, et pas que. Est dû notamment à nos modes de vie. Il y a également une question sur la fertilité. C'est l'âge où on fait des enfants. Donc en gros, il y a fécondité, c'est le fait de faire des enfants. Infécond, ne pas faire d'enfants. Fécond, faire des enfants. Fertile, pouvoir faire des enfants, être comme une terre fertile. Infertile, ne pas pouvoir faire d'enfants. Donc l'infécondité, ce n'est pas forcément l'infertilité. Bon, en l'occurrence, on a une infécondité, donc une baisse de la fécondité, et on a aussi une baisse bon, moins forte, mais de la fertilité. En fait, il y a un cercle vicieux de la fertilité, c'est celui de l'âge où on va procréer. Donc le pic de fertilité chez la femme, il est à 20 ans. Or, à quel âge les femmes font des enfants en moyenne en France? 30 ans, qui est exactement l'âge où la fertilité commence à descendre très vite. Donc, vous faites des enfants tard, et à 30 ans, vous avez moins d'énergie. Et donc, c'est plus difficile d'avoir des enfants à 30 ans. Parce qu'au début, donc déjà, il y a un accouchement. Après, on s'étonne qu'il y ait une explosion des césariennes. Mais forcément, à 30 ans, vous êtes plus sensible à la douleur, vous avez moins d'énergie. Les accouchements sont plus difficiles, forcément. Et donc, ça finit avec des césariennes, des forceps, etc. L'éducation de vos enfants dans les premières années va être beaucoup plus fatigante que si vous aviez eu 20 ans parce que voilà, se lever trois fois la nuit pendant quelques mois pour le peu qu'un de vos enfants à un moment donné ait vraiment des nuits compliquées et ne fasse pas ses nuits avant un ou deux ans, ben, ça va vous flinguer, ça va littéralement être épuisant. Et je vous en parle pas quand vous allez en faire d'autres. Si vous voulez trois gosses, ben, votre troisième vous l'aurez à 36-37 ans. 37 ans à cueillir un nourrisson, c'est un délire. Et donc, en fait, le cercle vicieux est là-dedans. On fait des enfants de plus en plus tard. On a du coup on a de plus en plus de mal à les faire, puisqu'on est moins fertile. est dû aussi à nos modes de vie, donc plus sédentaire, alcool, cigarette. En fait, pour le peu que vous soyez un homme ou une femme, contraception, cigarette, malbouffe, vie sédentaire, vous êtes infertile, hein, quasiment infertile. C'est-à-dire que on dit qu'on est infertile à partir de plus d'un an à essayer d'avoir des, avec des rapports réguliers, on prend plus d'un an à avoir un enfant. Ça veut pas, alors souvent, il y a des gens qui ont des enfants au bout de 2 ans, 3 ans, même 4 ans, parfois c'est long. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes proche de l'infertilité si vous avez des modes de vie comme ça et que vous commencez à faire des gosses à 32, 33 ans. Réellement. Donc on a des enfants, on commence à essayer d'avoir des enfants à 30 ans, on finit par l'avoir à 33 ans. Donc c'est super difficile. Donc le deuxième, il vient encore plus tard, et il est du coup encore plus difficile à avoir. Et du coup, on voulait 3 enfants, bon, on n'en aura que 2. Ou 4 enfants, on n'en aura que 2. Ou juste, voilà, on a eu des enfants beaucoup plus tard. Et du coup, ces enfants qu'on a eu beaucoup plus tard, bah, on les a pas eu beaucoup plus tôt, et ça fait énormément baisser le taux de fécondité, pendant que d'autres populations en font beaucoup plus sur notre sol. Et c'est bien normal, et c'est tout, c'est normal. C'est juste à nous de nous prendre en main politiquement et démographiquement. Et donc, cercle vicieux de l'infertilité et donc de l'infécondité. Alors que si vous faites des enfants jeunes, donc le pic de fécondité, c'est 20 ans. Ça va, c'est pas 16 ans non plus. Vous faites vos enfants, vos 3 gosses, vous les enchaînez à 20 ans, vous aurez de l'énergie. Quand vos enfants, ils auront 15 ans, et ben vous aurez 35 ans, 40 ans, vous aurez toute l'énergie de faire tous les super trucs avec eux. Bon, évidemment, restez pas dans les baskets de vos gosses jusqu'à leurs 20 ans. Mais je veux dire, vous allez pouvoir faire des trucs super physiques avec eux, faire du foot avec eux sans être une loque, aller courir avec eux. Pouvoir, bah, en fait, même pour eux, ça va être super parce que c'est un peu. Pour le peu que vous fassiez du sport, bah, vous êtes un peu un coach pour lui. Vous allez lui inciter à faire du sport. Ça va être beaucoup plus facile pour lui transmettre plein de choses, en fait, parce que vous aurez plus d'énergie, vous serez plus disponible. On fait les choses à l'envers aujourd'hui. On se crée une situation. Et ensuite, on pense à faire des enfants. C'est pas incompatible. J'ai des milliers de contre-exemples, j'ai des milliers de contre-exemples de darons qui n'ont pas forcément des situations incroyables. Ils ont déjà 7 gosses. C'est pas des blagues. Je connais des mecs, ils ont 30, 38 ans, ils ont 7 gosses. Et d'ailleurs, mes parents, eux, ont eu, je crois qu'ils ont eu leur 7e. Mon dernier petit frère, le 7e de la famille, ils avaient pas 40 ans. Donc, ça allait très vite. Bon, ma mère était très au foyer, mais je connais aussi des familles nombreuses où la mère travaille. Donc, on fait tout à l'envers. On fait des enfants tard, quand notre corps est plus capable. Et voilà. Donc, ça, c'est le. On va y revenir dans le prochain podcast avec donc Lucas. On reviendra sur un peu gérer entre guillemets, cette horloge biologique et gérer ses choix de vie à ce niveau-là. Quelques conseils. Parce que, oui, malheureusement, il y a un moment donné, il va falloir aussi sortir de cette matrice où ce qui vient d'abord, c'est le travail, c'est la vie professionnelle, etc. En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Et malheureusement. J'ai vu une phrase sur Instagram qui est assez belle, qui dit: la seule personne qui se rappellera que vous avez terminé tard votre travail, que vous êtes rentré tard du travail, c'est votre enfant. En fait, c'est intéressant, c'est que c'est vrai que la seule chose qui aura vraiment des conséquences sur le fait que vous avez priorisé à fond votre vie professionnelle et que etc. Bah, c'est vos gosses ou pas, ou vos non-gosses, vos gosses inexistants. Et évidemment, moi, je vous incite à être prospère, à devenir propriétaire, donc il faut se tuer à la tâche, évidemment. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des modèles traditionnels qui sont peut-être pas si aberrants et qui fonctionnent bien et qui permettent de mettre tout le monde au chaud parce qu'il y en a un qui se donne beaucoup plus au travail et une autre qui peut continuer à travailler mais qui s'occupe aussi des enfants, qui soit heureux, qui s'épanouissent et du coup qui fasse les enfants assez vite entre guillemets, ce qui n'empêche pas du tout derrière de continuer à travailler ou quoi. Mais voilà, il va falloir aussi qu'on change, qu'on combatte ce discours, parce qu'en fait l'injonction elle n'est pas là, l'injonction elle n'est pas à faire des gosses, c'est un mensonge, l'injonction elle est à faire une carrière et ne pas avoir de gosses. Mais genre partout dans mon entourage et dans mes amis, genre il y a une pression au fait d'avoir une carrière et de ne pas avoir des enfants trop vite. Regardez comment les gens qui ont des enfants tôt sont regardés. C'est des ovnis. On les traite de pondeurs, on les traite de famille de CAF, de famille CAF, je sais pas comment on appelle ça. L'injonction, elle est à l'inverse, un mytho. C'est un mytho des gauchistes. C'est l'injonction, elle est à l'inverse. Bon, alors à part dans les familles qui sont encore tradies, qui sont à l'ancienne, famille catholique ou quoi, où bon là, on attend un peu des mamans qu'elles aient des enfants, mais c'est même pas une injonction, c'est normal, c'est ce que je vous disais, quand vous avez reçu la vie, quand vous avez tout reçu de vos parents, quand ils ont sué, ils ont travaillé, ils se sont levés la nuit pour vous, oui, bah, on attend de vous que vous fassiez un enfant, parce que vous ne pouvez pas briser comme ça une chaîne immémorielle de transmission de la vie et de reproduction de l'espèce. En plus de la transmission de l'héritage, de ce qu'on est, de transmission de notre identité, de notre patrimoine culturel, immatériel, c'est normal qu'on attende de vous de faire des enfants. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une chaîne de reproduction jusqu'à vous. Qui vous êtes pour la rompre? Qui sont ces gens pour décider de rompre cette chaîne qui a été faite jusqu'à eux? Vous êtes les maillons faibles si vous ne transmettez pas ça. Vous êtes des traîtres, des merdes. C'est incroyable. S'il n'y a pas de raison valable, c'est une faute morale. C'est une faute éthique. Parce que l'éthique, maintenant, c'est juste être un connard inoffensif. L'éthique, maintenant, c'est quelque chose d'inoffensif et c'est accepter tous les caprices, l'éthique. En fait, non, les gens, ils disent n'importe quoi. Ils ont oublié ce que c'était la morale et ce que c'était vraiment l'éthique. Il y a une putain de chaîne millénaire, multimillénaire, qui a fait que vous êtes arrivé comme ça sur Terre. Et vous, vous allez la rompre. Putain. Bon, voilà, les amis, c'est un premier épisode sur une série qui va porter donc sur le fait d'avoir des enfants. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu balayé ces discours no-kids totalement hypocrite et qui injustifié, totalement ridicule sur le fond. Voilà, la semaine prochaine avec Grand Lucas, @GrandLucasPodcast, allez le voir sur Instagram et sur toutes les plateformes. On va répondre directement à vos questions, donc on va rentrer beaucoup plus dans du concret, dans des exemples à partir de nos expériences respectives. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus Lucas, lui, il a un modèle de famille un peu différent dans le sens où je trahis pas de secret ce qu'il a dit dans son podcast, hein, mais où sa femme avait eu un enfant avant qu'eux se rencontrent, et lui, il a pris à bras le corps cet enfant qui était déjà là, ils en ont eu un autre ensemble, etc. Ils ont une super belle petite famille, et lui, il a des super belles leçons là-dessus, donc il a un modèle familial un peu différent, où moi, j'ai un truc plus classique, où moi, ça a été... Moi, je me suis mis avec ma femme et c'était très romantique. On s'aimait tellement que, oui, naturellement, la question d'avoir des enfants et tout, elle s'est imposée. On n'a jamais eu besoin de se poser autour de la table et de prendre ce choix. Il a été évident pour nous, etc. Donc, ça, c'est super. Vous allez voir, on aura tous les deux un peu ce bagage différent. Donc, voilà. Donc, on entrera plus dans le vif du sujet au prochain épisode. Allez, portez-vous bien ce soir, fécondez pour faire des gosses et remonter et combattre activement le remplacement de notre peuple. Ce soir, crac crac, on fait des gosses. Vous imaginez même pas la joie que ce sera, mais c'est le sujet du prochain podcast et il va être super bien. Je n'en doute pas. Donc voilà, allez, passez un très bon week-end, une bonne soirée.